Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
J'accueille aujourd'hui dans Point de mire Jean-Noël Jeannenet, historien, homme politique, qui a été secrétaire d'État au commerce extérieur et à la communication sous le gouvernement d'Edith Cresson et de Pierre Bérégovoy. Jean-Noël Jeannenet est aussi un homme de radio et de télévision. Il anime depuis 1999 l'émission Concordance des temps sur France Culture et il a été président de la Bibliothèque nationale de France. Jean-Noël Jeannenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu nous parler des rendez-vous de l'histoire de Blois. Il s'agit d'une grande rencontre des passionnés d'histoire qui se déroule chaque année à Blois au mois d'octobre. Ces rendez-vous de l'histoire de Blois, comme on les a baptisés, ont été créés par Francis Chevrier en 1998. Cette année, les rendez-vous de l'histoire de Blois fêtent leurs 10 ans d'existence. Et un succès, je crois, jamais démenti jusqu'à présent. Blois est effectivement devenu, en 10 ans, le rendez-vous incontournable des amateurs d'histoire de tout âge, des historiens, des écrivains, des professeurs, des chercheurs et des étudiants. La démarche des organisateurs se veut démocratique, citoyenne. L'idée est de satisfaire à la fois le public spécialiste et le grand public, dans la mesure où les Français nourrissent un goût certain pour l'histoire, celui d'une histoire ouverte sur le monde. Ainsi, 25 000 personnes sont attendues pendant 4 jours pour prendre le pouls de l'histoire en marche, de l'histoire vivante, entre le 18 et le 23 octobre. Jean-Noël Jeannenet, vous êtes président du comité scientifique des rendez-vous de l'histoire de Blois depuis 4 ans. Alors concrètement, à quoi ressemblent les rendez-vous de l'histoire de Blois ?
Vous l'avez très bien défini, ce qu'était l'intention, le propos, et je crois les racines du succès de cette initiative. Je voudrais ajouter au nom de Francis Chevrier, qui joue un rôle évidemment essentiel, celui de Jack Lang,
oui,
qui a eu l'idée initiale, qui était à l'époque député maire de Blois, et qui est d'une certaine façon et demeure le parrain de ces rencontres, même si son successeur qu'il avait battu à la mairie, Nicolas Perruchot, a tout de suite décidé de continuer cette affaire et s'y emploie avec beaucoup d'énergie et de détermination. Cet hommage étant rendu, et nécessaire. Hommage. J'en viens en effet à votre question. Vous avez parfaitement marqué ce qu'était le propos, c'est-à-dire la rencontre entre ceux qui font profession d'être historiens, d'un côté, ceux à qui la société permet de faire ce merveilleux métier, et d'autre part, un public qui est un public, je pense, constitué par deux cercles différents. Il y a d'abord beaucoup d'enseignants d'histoire, de géographie, qui en effet souhaitent se ressourcer, souhaitent échanger des propos, écouter, entendre, se rencontrer aussi entre eux. Et puis le public plus large, heureusement, nous ne sommes pas du tout cantonnés à nos seuls collègues de l'enseignement secondaire ou supérieur. Nullement, nous sommes très heureux de voir affluer, vraiment affluer, un grand nombre de citoyennes et de citoyens qui ont la conviction, comme la nôtre, qu'on ne peut pas exercer son analyse de notre société, du cours des choses, on ne peut pas résister au bombardement de toutes les nouvelles qui nous assaillent sans réfléchir à la continuité des temps. C'est le meilleur moyen de hiérarchiser cet ensemble de nouvelles qui nous arrivent en masse, en foule. C'est la meilleure manière de se faire un jugement sur la façon dont notre société évolue. Bref, c'est à la fois important et agréable. C'est pourquoi la rencontre entre cette importance et cet agrément définit, je crois, une atmosphère très conviviale qu'est celle de Blois.
C'est une manifestation effectivement très conviviale, qui est réelle et qui n'est pas évidente parce qu'il y a beaucoup d'événements. Il y a plusieurs débats, plusieurs conférences, des cafés littéraires, il y a vraiment toute une série de petites manifestations et le public, effectivement, librement, peut aller d'un endroit à l'autre. Ça se passe concrètement dans le centre de Blois, sur plusieurs bâtiments.
Cette profusion que vous évoquez a été voulue. Nous pensons qu'il vaut mieux sortir de table en ayant un peu faim. Nous pensons que cette frustration de ne pas pouvoir être partout fait aussi partie de l'atmosphère de cet événement, qui se situe pour l'essentiel, le cœur autour de ce qu'on appelle la Halle au Grain, qui est un très très beau bâtiment en forme d'hémicycle où peuvent se rencontrer plusieurs centaines d'auditeurs. Mais ça ne suffit pas, car beaucoup font la queue pour entrer et les organisateurs songent à augmenter les possibilités d'accueil. Et puis il y a beaucoup d'autres endroits, en effet, du côté du château, dans la ville, qui pendant quelques jours devient vraiment la cité de l'histoire. On y voit circuler toutes sortes de nos amis, de ceux qui nous fréquentent un peu partout, qui commentent, qui hésitent, qui arrivent. Il y a le salon du livre qui est fondamental, où tous les grands éditeurs nous rejoignent pour présenter leur production dans le domaine de l'histoire, toujours sous les doubles auspices de Marianne et de Clio. Je pourrais dire que ce sont nos deux muses. Marianne, la vie de la République, et Clio, la longue durée du passé, éclairée par les travaux des historiens.
Alors, comme à Saint-Dié pour la géographie, qui est un petit peu l'équivalent pour la discipline de la géographie, les rendez-vous de l'histoire de Blois sont organisés chaque année autour d'un thème. L'an dernier, c'était l'argent en avoir ou pas. En 2005, religion et politique. Encore l'année précédente, les femmes dans l'histoire. Et cette année, les organisateurs de Blois relèvent un défi. Parler de l'opinion. Le thème exact, c'est l'opinion, information, rumeurs et société. Alors évidemment, on va reparler de ce beau thème tout au long de l'entretien. On voit donc qu'il y a bien deux événements, deux types d'événements. Il va y avoir plusieurs manifestations autour de ce thème central, et puis toute une série donc, que vous avez déjà évoquée, le Salon du Livre, ainsi que le cinéma, qui ne sont pas forcément en rapport avec le thème de cette année, mais qui prouvent la vitalité de la recherche historique et qui met en contact justement tous ces acteurs qui abordent l'histoire et qui la transmettent.
C'est comme à Avignon, figurez-vous, il y a un festival on et puis un festival off. Et l'arrivée de tous ceux qui souhaitent contribuer à enrichir cette rencontre sur d'autres thèmes que ceux que nous avons choisis signifie précisément cette vitalité. Alors vraiment, en effet, nous avons déterminé des thèmes successifs avec toujours le souci que ce soit des sujets transversaux.
Oui.
Qui concerne l'ensemble de l'histoire de l'humanité, qui ne se concentre pas sur une période spécifique et qui d'autre part puisse avoir beaucoup de résonance dans les différentes branches de l'histoire, histoire religieuse, histoire économique, histoire spirituelle, histoire politique, histoire du corps, etc., etc.
Les rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est l'occasion de mesurer aussi la place et la vitalité de l'histoire dans notre société. Et sur cette question, vous organisez cette année un événement exceptionnel avec des invités prestigieux, justement. Vous organisez un grand débat sur le thème de l'importance de la connaissance historique pour l'intelligence du monde contemporain. Est-ce que c'est vraiment l'événement phare ?
Je ne sais pas si c'est l'événement phare. En tout cas, il est très significatif de la sensibilité, de la conviction qui sont les nôtres.
Oui.
J'appartiens à une génération d'historiens qui considèrent qu'il y a un rôle social de l'historien, qui considèrent que nous ne sommes pas destinés à vivre dans notre tour d'ivoire, dans les délices de l'érudition détachée des mouvements du siècle, mais qu'il nous revient, sans naturellement de compromission par rapport au mode instantané, il nous revient d'aider nos contemporains à éclairer le présent à partir du passé. Toute histoire est toujours contemporaine, c'est bien connu, on pose toujours les questions d'aujourd'hui. Et pour ce qui me concerne, j'ai toujours pensé, depuis que j'ai commencé d'écrire, d'enseigner, de publier des livres ou des articles, j'ai toujours pensé que c'était notre tâche. J'ajoute qu'en plus c'est très intéressant, parce que ça nous permet de dire notre mot dans le cours des choses. C'est aussi pourquoi je fais chaque semaine cette émission depuis 9 ans à France Culture, le samedi matin, qui s'appelle Concordance des temps, et qui est exactement fondée sur cette idée là. Non pas naturellement que l'histoire se répète, c'est idiot, il n'y a pas de répétition à l'identique, mais il y a des séquences, des enchaînements, des moments, des circulations de rythmes lents, de génération en génération, de siècle en siècle, et tout cela doit être dit, encore une fois, pour éviter qu'on soit ébloui par les émotions immédiates comme un phalène par la lumière.
Comment évolue la recherche historique en ce moment ? Quels sont les champs historiques qui ont la préférence des chercheurs ? Est-ce que les rendez-vous de l'histoire de Blois accordent une place justement à ces nouvelles recherches ?
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, sur la durée de 40 ans, pour ma part, je peux voir à peu près cette durée, on a constaté qu'il y a eu des surgissements d'intérêts nouveaux et certains déclins parfois de curiosités antérieures. Regardez l'histoire économique, elle a traversé une période un peu morne pendant 20 ou 30 ans. Peut-être parce qu'on était fatigué des statistiques.
L'histoire quantitative.
Des sujets qui étaient un peu quantitatifs. On est en train de s'apercevoir que l'histoire économique, c'est beaucoup d'autres choses. C'est l'histoire des hommes constituant leur invention, leur action, les organisations de toutes sortes, les entreprises, qu'évidemment, il faut s'en mêler. Et l'histoire économique est en train de reprendre du poil de la bête. L'histoire politique, quand je suis entré à la Sorbonne, elle était considérée parfois avec un peu de mépris, en particulier par l'arrogance de l'école des hautes études, qui disaient, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont considéré que ça devenait intéressant quand ils ont commencé d'en faire. Mais entre-temps, autour de René Raymond en particulier, suivant un axe qui était constitué par l'Université de Nanterre d'un côté et l'Institut d'études politiques, j'ai enseigné personnellement dans les deux, autour de cet axe a surgi une histoire politique et une histoire entièrement renouvelée, en particulier par les liens qu'elle a établis avec l'histoire culturelle. Nous considérons qu'il serait absurde de réduire l'histoire politique au récit d'une succession d'événements, bien sûr. Mais qu'en revanche, dès qu'on ouvre cela vers la question des représentations, qui sont aussi importantes que les faits. Alors, on ouvre tout un champ absolument passionnant, en particulier ma question de toutes les influences qui s'exercent sur la vie politique. Pour ma part, par exemple, j'ai commencé en travaillant sur le rôle de l'argent en politique. À propos de François de Vindel, ça a été mon sujet de thèse, qui est un maître de forge et un symbole du pouvoir des 200 familles, comme on disait à l'époque. Régent de la Banque de France, sénateur, propriétaire de plusieurs journaux. Bref, c'était une façon d'enrichir formidablement l'histoire politique que de réfléchir à la prise de décision et à l'influence extérieure. Même chose pour l'histoire des médias, même chose pour les relations avec la culture.
Vous avez beaucoup, vous avez été vraiment un précurseur.
Donc il y a, en tout cas, il y a eu une...
Et actuellement...
Alors, pour l'histoire politique, effectivement, voilà, une rénovation formidable qui fait que l'école française s'est installée de nouveau au devant de l'attention de nos collègues du monde entier. Un mot aussi sur une autre histoire qui s'est beaucoup développée et qui est absolument passionnante, notamment sous l'influence d'un historien que je trouve le plus remarquable de notre temps, c'est Alain Corbin. C'est l'histoire des sensibilités, c'est-à-dire l'histoire
et justement,
du tempérament.
Le grand débat qu'on évoquait tout à l'heure sur l'importance de l'histoire dans la société d'aujourd'hui, dans le monde, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, sera animé et présidé par Alain Corbin.
C'est pourquoi nous l'avons convié.
Et oui, qui est d'ailleurs, je crois, le président de cette 10e édition.
Il l'est.
Effectivement, cette histoire tout à fait...
Il a ouvert des pistes.
Des pistes incroyables.
Très nouvelles sur les réactions. Il a commencé avec l'histoire de la prostitution, les odeurs, le thème du bruit, les couleurs. Enfin,
les paysages.
Il a beaucoup de disciples. Les paysages, l'environnement, l'éloignement.
Alors, la sexualité aussi fait partie du champ des recherches historiques récentes et qui est une recherche très, très active. Et les rendez-vous de l'histoire de Blois organisent cette année, en 2007, un cycle de conférences de rencontres autour du thème des sexualités minoritaires. On est donc là vraiment sur un champ particulier, mais qui effectivement peut-être méconnu du grand public. Ce sont des recherches en histoire qui prennent beaucoup d'ampleur.
J'imagine la stupéfaction de nos maîtres de la Sorbonne vers 1960, et ceux plus encore qui ont enseigné vers 1910, si on leur avait dit que l'université allait se mêler de ces questions. Et pourtant, c'est à la fois nécessaire et bienvenu. Et vous voyez comme cela illustre ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait que chaque génération pose de nouvelles questions. Le formidable progrès que constitue l'installation d'une tolérance par rapport aux sexualités des adultes, ce formidable progrès était voué à se traduire par des curiosités neuves, et celles en particulier l'histoire de l'homosexualité, l'histoire de toutes sortes de la vie privée, la sexualité au sens large, bien sûr. Et c'est un signe, de même que, bien sûr, l'histoire des femmes, le fait que il y a encore du chemin, je vous le concède, mais que la situation de la femme dans la société occidentale, en tout cas, s'est, semble-t-il, améliorée sur 50 ans. Influence, situation, place, relation avec l'homme dans la vie privée, rôle dans la cité, était voué à conduire les chercheurs, et Dieu merci, pas seulement des femmes, car je me méfie toujours des spécialisations de ce type, les chercheurs hommes et femmes à s'intéresser à la question de la place de la femme, ce que les Américains appellent en effet « gender ». Nous sommes un peu réticents, parce que pour nous, le genre, c'est une notion grammaticale. Mais enfin, soit.
Alors, est-ce que, à votre avis, l'histoire se referme sur sa propre discipline, ou au contraire, est-ce qu'elle se dilue dans un ensemble plus large, dans celui des sciences sociales ?
Ni l'un ni l'autre, elle ne se replie pas, elle ne se dilue pas.
Oui.
Elle ne se replie pas parce que ce n'est pas une science, l'histoire, c'est une discipline. Et comment pourrait-elle songer à faire l'économie d'une curiosité pour toutes les disciplines voisines, la science politique, l'anthropologie, la psychanalyse, etc., etc. Mais elle ne se dilue pas. Car elle conserve évidemment sa spécificité, je dirais sa spécificité magnifique, qui est le thème de la longue durée. Souvent, quand nous rencontrons des sociologues ou des anthropologues, nous sommes un peu gênés et parfois d'une certaine façon stimulés par le fait qu'ils sont beaucoup plus synchroniques que diachroniques, comme nous disons dans notre jargon. Ils ont tendance à voir plutôt les immobilités et les constantes. Et nous sommes amenés à réfléchir sur les mouvements. Et en même temps, bien sûr, sur continuité d'un côté et rupture de l'autre.
Est-ce que l'écriture de l'histoire échappe un peu plus aux historiens aujourd'hui qu'autrefois ?
À cet égard, je voudrais être très clair, je me suis toujours réjoui d'être dans une discipline qui pouvait être abordée par d'autres que par ceux qui étaient patentés par les universités. C'est une grande source d'enrichissement, c'est stimulant. Je pense que si on est physicien en pointe d'un domaine, on ne doit guère trouver de concurrence d'amateurs éclairés. Ça a peut-être été vrai pour les astronomes au 19e siècle. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. En revanche, dans notre discipline, qui encore une fois ne me paraît pas être une science, l'histoire, nous voyons affluer un certain nombre d'écrivains et à ce moment-là, ou d'auteurs, je trouve que c'est très bien Et cela conduit évidemment à ce que nous soyons nous-mêmes parfaitement libres de juger la qualité de ce qu'ils font. Mais je connais, je ne les citerai pas, beaucoup d'historiens universitaires qui sont médiocres. Et je connais un bon nombre d'auteurs qui n'ont pas été faits docteurs en histoire et qui, abordant nos rivages, viennent apporter des éléments nouveaux, des curiosités inédites et parfois un talent de plume que n'ont pas mes collègues. Voyez-vous, je crois très très important que l'histoire continue d'être bien écrite aussi. Je pense que les relations entre l'histoire et la littérature doivent s'affirmer, se perpétuer.
Justement, les rendez-vous de l'histoire de Blois sont vraiment à l'image de cette grande diversité de ceux qui écrivent l'histoire, les écrivains, les journalistes et surtout les historiens, puisqu'il y a effectivement des cafés littéraires, des rencontres, des débats, des colloques. C'est le lieu où tous les passionnés d'histoire se retrouvent. Alors, on parlait de l'opinion tout à l'heure. Je voudrais revenir sur ce thème choisi cette année par les organisateurs des rendez-vous de l'histoire de Blois. Est-ce qu'aujourd'hui, les historiens sont condamnés à répondre aux opinions publiques sur les débats actuels concernant les conflits de mémoire?
On revient là à la question de la demande sociale, comme oui. Nous disons. C'est-à-dire qu'il y a eu en effet, de la part de la société ou du monde politique, des requêtes adressées aux historiens, du monde juridique aussi adressées aux historiens, venant faire appel à leurs compétences.
Ouais.
On dit souvent expertise, j'ai mieux compétence sur tel ou tel sujet. On peut prendre des exemples. Et à cet égard, la haute figure de René Raymond, qui était mon maître et que nous avons hélas perdu cette année, était représentative car il s'est souvent plié à ce type de demande et je crois qu'il a bien fait. Il y a par exemple eu un certain nombre de commissions. Prenez la commission sur Touvier qui avait été lancée par l'archevêque cardinal Lyon, Monseigneur de Courtrai. C'était une occasion de jeter une lumière intéressante sur l'histoire de ce milicien tel qu'il avait été protégé par l'Église de France. Il y a d'autres exemples, d'autres cas. Par exemple, tous les procès, qui ont été les derniers procès de l'époque de la guerre. Le procès Barbie, le procès Touvier précisément, ou le procès Papon. Où le monde des historiens a été agité par un débat intéressant. Fallait-il ou non accepter à la demande de la justice de venir témoigner sur ce qu'avait pu être le moment où les actes que l'on jugeait avaient été accomplis, de façon à restituer d'une certaine façon ce qu'avait été à l'époque la diversité des possibles pour les individus sur lesquels allait tomber un verdict. Certains ont dit que c'était un détournement du rôle de l'historien et que il ne le revenait pas de contribuer à un jugement, mais seulement d'éclairer une réflexion. Et d'autres, comme par exemple dans le cas de Papon, des gens comme René Raymond, déjà cité, Jean-Pierre Azéma et d'autres, sont venus. Pour ma part, je pense qu'ils ont bien fait. Je les ai approuvés et soutenus à l'époque. Des spécialistes, des gens qui connaissaient très bien la période où les actes de Papon avaient été commis et qui venaient dire à un jury dont tous étaient nés après, sauf un seul, tous étaient nés après. Voilà ce qui, 60 ans après, peut être restitué de la liberté de cet homme. Ça me paraît avoir été indispensable. Voilà un autre cas où l'histoire a été convoquée en quelque sorte. Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive pour des événements nombreux où on vient, surtout si on est inscrit sur l'agenda, sur la liste des noms des journalistes, ils pensent souvent toujours aux mêmes. Alors ils vous téléphonent pour vous demander de replacer tel événement dans la durée. Je crois qu'ils ont raison de le faire et qu'on a raison de répondre. C'était d'une certaine façon déjà vrai sous la Troisième République. Par exemple, les historiens ont été très présents dans l'affaire Dreyfus. Vous savez qu'ils ont contribué à ce moment-là à éclairer le jugement public sur la nature en particulier des documents, le fameux bordereau qui avait servi à appuyer l'erreur judiciaire. Ça existait déjà, mais il me semble que dans notre époque, agglomérée et précipitée, comme disait De Gaulle, dans notre époque, on a plus besoin encore des historiens, qu'on fait plus appel à eux et qu'il leur revient de répondre à ce genre de sollicitations.
L'histoire des hommes. L'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Qu'est-ce que l'opinion publique, Jean-Noël Jeannenet, quand apparaît-elle dans l'histoire de nos sociétés?
L'opinion publique, on appelait ça, sous l'Ancien Régime, l'esprit public. Le mot a surgi dans la seconde partie du XVIIIe siècle. Il y a un excellent article, une entrée de Mona Ozouf dans le dictionnaire de la Révolution qu'elle avait publié avec François Furet au moment du bicentenaire. Elle y montre très bien que, dès l'origine, on s'est interrogé sur la possibilité et l'intérêt de fixer ce que pouvait être l'esprit public, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'opinion publique. On trouve dans Sébastien Mercier, qui est un grand publiciste de l'époque, un écrivain chroniqueur de la vie quotidienne, des textes tout à fait significatifs où il dit en particulier, quand on s'efforce de saisir l'esprit public avec ses mains, d'en saisir la température, on a souvent le sentiment que ce qu'on conclut quant à cette température, ce n'est pas la vraie chaleur de l'air ambiant, mais que c'est la température même de vos mains. Et cela se pose encore aujourd'hui avec toute la question des sondages. L'esprit public apparaît d'ailleurs de façon ambiguë aux yeux des philosophes. L'esprit public leur apparaît comme une notion qui permet de balancer, de contrebalancer le pouvoir absolu. Et donc, c'est la naissance d'une autorité potentielle, une autorité virtuelle qui viendrait permettre de soutenir la liberté. Et en même temps, il y a chez eux, il y a chez les révolutionnaires, en particulier chez les révolutionnaires les plus sages, il y a une inquiétude par rapport à l'expression de cet esprit public lorsqu'en réalité, il devient la juxtaposition de passions concomitantes, de passions de groupe. Qu'est-ce que c'est que l'opinion en tant que telle? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on est légitimé à parler d'elle comme un grand ensemble? Ou en réalité, est-ce que ce n'est qu'une mosaïque de sentiments juxtaposés? Vous voyez que dès les origines, dès le début de notre modernité, dès la Révolution française, s'est posée une question qui reste encore absolument vivante aujourd'hui quand on s'interroge sur l'opinion publique.
On a longtemps associé l'histoire de l'opinion et l'histoire de la démocratie, d'ailleurs. Les antiquisants, les médiévistes, les historiens spécialistes des régimes totalitaires relèvent eux aussi les traces d'une opinion dans telle ou telle société. C'est un petit peu nouveau, justement, de détacher l'histoire de l'opinion publique de l'histoire des sociétés démocratiques.
Vous voyez que c'est un cas topique pour nous qui avons choisi ce sujet, l'opinion publique, nous qui souhaitons parcourir l'ensemble de l'histoire de l'humanité. C'est un cas topique. Est-ce que nous avions le droit de revenir en arrière au-delà du XVIIIe siècle et de parler d'opinion publique pour le Moyen-Âge, Rome, la Grèce antique ou l'Égypte même? Alors nous avons été encouragés par nos collègues antiquistes ou spécialistes du Moyen-Âge. Nous avons été encouragés parce qu'ils nous ont dit que même si la notion n'était pas clairement formulée dans les esprits, évidemment, par exemple dans la Rome antique, il y avait une opinion publique et les gens réagissaient. Alors, par quel canal s'exprimer cette opinion publique, par quel chemin était-elle formée, quelle était la différence entre les groupes, tout ça est ouvert comme question. Mais il n'est pas illégitime, rétrospectivement et sans anachronisme, de parler d'opinion publique, sauf à considérer que dès cette époque, on se heurte à toutes les difficultés historiographiques, méthodologiques que nous rencontrons aujourd'hui quand nous voulons parler de l'opinion publique. Vous savez, j'ai relevé dans un des très bons livres récents sur l'opinion publique de Pierre Laborie, consacré à la période de Vichy. C'est toujours plus difficile de saisir l'opinion publique en période de régime autoritaire, quand il y a une chape de plomb sur la presse et sur l'expression des points de vue. Il dit ceci, mais qui vaut également pour les périodes de liberté. Il dit au fond, les historiens appliquent à l'opinion publique les adjectifs que voici. Insaisissable, inconstante, fragile, versatile, ambigu, inconséquente, incohérente, amnésique. Rien que ça. Alors, est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Bien oui, finalement. C'est comme du sable qui s'échappe de vos doigts. On a toujours l'impression que la notion va disparaître et pourtant, chaque fois, elle ressurgit et d'une certaine façon est indispensable pour la compréhension de nos évolutions, en tout cas contemporaines et en particulier de nos démocraties.
Alors, elle s'exprime dans les médias, cette opinion publique aujourd'hui. Les médias sont-ils le reflet, le guide aussi de l'opinion?
Vous savez, les médias, tant bien que mal, avec un talent inégal, sont toujours voués à être quelque part entre deux rôles. Le rôle, en effet, d'expression des sensibilités collectives et le rôle d'acteur pour contribuer à les modifier. Expression, forcément, un journal qui serait complètement à contre-courant de tout ce que les gens pensent, eh bien, il durerait pas longtemps, parce qu'un journal, c'est non seulement une entreprise culturelle, mais une entreprise tout court. Il faut bien qu'il vende du papier ou qu'elle soit écoutée pour ce qui touche à la radio ou à la télévision, ou même maintenant à ce qui s'offre sur Internet, n'est-ce pas? Il faut avoir une écoute, et si on est trop loin des sensibilités, alors on n'est plus écouté, on n'a plus d'influence sur ces sensibilités même. Et puis, il y a un rôle de peser sur ce que pensent les gens. Mais tout ça nous conduit dans un champ extraordinairement passionnant et extraordinairement difficile. Par exemple, la question de savoir si les lecteurs ou les auditeurs vont chercher précisément ce qui va conforter leurs idées antérieures ou non. C'est pourquoi on s'égare, me semble-t-il, quand on dit que les médias ont l'exclusivité du rôle d'influence sur les sensibilités. Si il était ainsi, par exemple, il n'y aurait pas eu de non au référendum sur l'Europe en 2005. C'était inconcevable. La grande majorité des médias, notamment, en tout cas, sauf Internet peut-être, étaient favorables au oui. Et si les médias avaient été tout puissants, Valéry Giscard d'Estaing aurait été réélu en 1980, etc., etc. Donc c'est cette dialectique qui est si intéressante et qui conduit tout de suite, en réalité, à refuser la notion, en tout cas à se méfier de la notion d'opinion publique considérée comme un bloc et à introduire des distinguos. Et c'est ce que nous ferons sûrement au cours de ces rendez-vous de Blois.
Il y a beaucoup de débats sur la presse, les médias, l'opinion.
Pas seulement les médias. Les médias, nous en avons déjà parlé à propos de l'argent, par exemple, l'année dernière. C'est un autre thème, l'argent en avoir ou pas, là, en 2006. Mais vous voyez, la notion d'opinion publique dépasse largement la question des médias, même si elle l'inclut au centre. Nous savons bien que les comportements électoraux, vous voyez autour de vous, vous voyez vous-même, ils sont fondés non seulement sur la lecture des journaux, mais aussi sur une tradition familiale, un milieu professionnel, parfois une réaction contre les générations antérieures, etc., etc. Donc, il s'impose absolument de distinguer. Il faut distinguer des groupes, par exemple des générations. Nous savons bien que Ségolène Royal aurait été élue si nos compatriotes de plus de 60 ans étaient morts, à Dieu ne plaise naturellement. S'ils n'avaient pas voté, elle aurait été élue. C'est intéressant du point de vue des comportements électoraux et de l'opinion publique. Il faut distinguer aussi suivant les régions, bien sûr. Il faut distinguer selon les professions. Il faut distinguer suivant les sexes. C'est très intéressant de voir comment votent les femmes et comment votent les hommes, comment se définit leur opinion. Pourquoi est-ce que les radicaux, ils avaient tort naturellement, sous la Troisième République, refusaient le vote aux femmes? C'est parce qu'ils savaient à juste titre que si les femmes votaient, ça déporterait assez largement sur la droite les résultats des élections. Il a fallu à peu près 30 ans pour que les femmes votent comme les hommes et que ce critère-là cesse d'être un critère discriminant. Et maintenant, elles votent même très très légèrement plus à gauche que les hommes.
Les rendez-vous d'Histoire de Blois cette année abordent aussi le thème de la rumeur et de la propagande. Alors, quand l'opinion se transforme en stéréotype, la rumeur apparaît. Vous avez invité Edgar Morin aussi pour ses rendez-vous d'histoire de Blois, qui était un des premiers à s'intéresser à la rumeur.
Un très beau livre sur la rumeur d'Orléans, il y a une trentaine d'années.
Voilà.
Qui disait que vous savez que des magasins juifs capturaient des clientes, les piquaient, les envoyaient par des souterrains étranges, de passion tellurique jusqu'à des bordels d'Afrique du Nord.
Ça a été le début aussi là d'un grand champ pour les sciences sociales en général.
Et l'histoire.
Et l'histoire en particulier, qui a été repris effectivement par Mona Ozouf et beaucoup d'autres. Les historiens ont beaucoup étudié la rumeur et la propagande également. Quel est le rapport entre l'opinion et le développement des sciences sociales?
Je pense que les sciences sociales ne peuvent que se saisir avec passion, avec une curiosité intense de la question de l'opinion, c'est-à-dire du regard que jettent les hommes et les femmes sur les événements. Vous avez tout à fait raison d'insister sur ces deux thèmes qui vont être très présents à Blois cette année, c'est-à-dire le thème de la rumeur et le thème des stéréotypes, qui ne sont pas d'ailleurs sans lien les uns entre les autres. La rumeur, c'est un événement de très grande importance. Et bien sûr, ceux qui se sont, comme Georges Lefebvre, déjà il y a plus d'un demi-siècle, intéressés à la grande peur. Vous savez, l'incendie des châteaux pendant l'été 1789, c'était déjà une manière de poser la question de la rumeur sur la table. De quoi est-elle faite? Comment fonctionne-t-elle? Et c'est un domaine typique où il faut faire appel, bien sûr, à d'autres disciplines que l'histoire. Marie Bonaparte a écrit, la chère disciple de Freud, qui a contribué à le sauver, elle lui permet de fuir d'Autriche, interprété récemment, mais je ferme la parenthèse, brillamment par Catherine Deneuve. Bref, Marie Bonaparte a écrit un très très beau livre sur les rumeurs de la guerre, où elle étudie en particulier toutes celles qui ont circulé entre 39, 40, etc. Toute période de guerre qui implique de la censure aboutit forcément à des rumeurs plus grandes, puisqu'on ne fait plus fond sur ce qu'on vous dit officiellement. Ça a été vrai aussi entre 14 et 18. Il y a beaucoup de travaux passionnants sur les rumeurs de la guerre à ce moment-là. Donc il faut se saisir de la rumeur comme un objet essentiel, réfléchir à ses origines, réfléchir à sa circulation, réfléchir à la géographie de son influence, réfléchir à ses mutations aussi, comment elles servent éventuellement dans un sens puis dans un autre, en restant les mêmes, et réfléchir à la manière dont un pouvoir démocratique peut éventuellement les combattre lorsqu'elles sont néfastes, lorsqu'elles sont perverses, lorsqu'elles ont des effets redoutables sur soit l'efficacité d'une armée, soit la cohésion d'une nation. Ça, c'est pour les rumeurs. Les stéréotypes me passionnent aussi. Je vais d'ailleurs faire une conférence personnellement sur ce thème à Blois, car je considère qu'il y a là un sujet digne de toutes les curiosités. Ce qui, en somme, vient s'interposer entre la réalité et soi-même, et s'appliquer comme une sorte d'idée préétablie sur des réalités complexes. Alors, c'est tout à fait intéressant de regarder. J'avais organisé il y a quelques années avec l'association que je préside, qui s'appelle Europartenaire, que je préside avec Elisabeth Guigou, nous avions organisé de façon internationale un colloque sur ce thème des stéréotypes. Et nous l'avions appelé « Une idée fausse est un fait vrai ». C'est un mot qu'on prête à plusieurs auteurs, peut-être à Raymond Aron, je ne sais pas. Une idée fausse est un fait vrai. Autrement dit, pour l'historien, le fait que l'on dise une chose qui n'est pas avérée devient en soi un ressort des événements ultérieurs et donc mérite toutes les curiosités d'être considéré comme un objet d'histoire. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit et nous savons bien que les stéréotypes, ils sont de toujours. Il est absolument utopique de penser qu'on en fera litière, qu'on s'en débarrassera. Non, ce qui est intéressant, c'est de comprendre leur ressort, leur dynamique et ensuite, d'un point de vue non plus scientifique, mais du point de vue civique, de se demander comment on peut les dépouiller de leur caractère pernicieux et comment on peut les faire servir finalement à la paix et à la prospérité. Ce qui conduit à un troisième sujet qui est proche finalement et qui touche l'opinion publique, c'est-à-dire la question des manuels scolaires. Je vous disais que l'opinion publique, elle était complexe, elle vit sur plusieurs rythmes à la fois, c'est ça qui est passionnant. Et un des rythmes le plus lent, c'est celui de l'influence des manuels scolaires. Si vous prenez un événement comme le 11 septembre par exemple, le dernier, les États-Unis, émotion immédiate, surface des choses, bien, nous sommes tous américains, écrit Colombani. Ensuite, vous pouvez prendre quelque chose de décennal. Comment ça évolue en 10, sur 10 ans, sur 20 ans, et on rejoint peut-être un certain anti-américanisme dont il faut analyser les composantes de notre opinion publique liée à la guerre de l'Irak et à Bush, etc. Et puis vous pouvez prendre encore plus profond un rythme quasiment séculaire, qui est l'attitude des Français à l'égard des États-Unis d'Amérique, qui est tissée de souvenirs de Lafayette à l'époque, Lafayette nous voici, c'est le seul peuple à qui on s'est jamais battu, etc. Donc vous voyez, l'opinion publique, elle se construit toujours sur plusieurs rythmes. Et le rythme de la lenteur, c'est celui que contribue à influencer non pas principalement les médias, mais l'enseignement à l'école. Et ça devient tout à fait passionnant. Un de mes premiers travaux a été d'étudier la correspondance des combattants en 1914-1918, à partir des commissions de contrôle postal. J'avais été à l'époque tout à fait frappé par le fait qu'on retrouvait dans ces lettres, dans les jugements portés sur les Italiens, les Allemands, les Anglais, etc., qu'on retrouvait beaucoup des stéréotypes, des clichés qui avaient été portés par l'enseignement de l'histoire à l'école primaire, notamment par le petit Lavis. Donc vous voyez qu'il y a là un champ d'études qu'on ne finit pas d'explorer, toujours avec un grand appétit comme historien.
Je crois que les professeurs d'histoire aujourd'hui sont très attentifs aux stéréotypes et qu'ils apprennent à leurs élèves à les repérer. Les rendez-vous d'histoire de Blois sont aussi l'occasion de rencontres pédagogiques qui s'adressent à la fois aux professeurs et aux citoyens soucieux d'éducation. Il y a à Blois toute une réflexion sur comment enseigner le document, comment enseigner avec le document, qu'il soit un document d'archives, de presse, un document audio, une image télévisée.
Nous sommes si heureux d'avoir à Blois, dans ces rendez-vous de l'histoire, tant de nos collègues du secondaire à qui ça donne l'occasion de réfléchir par rapport au quotidien de leur jour à ces choses fondamentales pour la profession.
Jean-Noël Jeannenet, merci d'être venu présenter les rendez-vous d'histoire de Blois 2007, ce vaste forum annuel qui s'adresse à un très large public pour mieux comprendre le monde grâce à l'histoire.
Merci de votre accueil si chaleureux.
Merci à vous, Jean-Noël Jeannenet. Thank you.